Salut les marques, salut les smart, bienvenue dans Catch Up spécial Great Balls of Fire, le dernier pay-per-view de la WWE. Je suis Ringside et pour m'accompagner ce soir pour analyser tout ça, Hank, l'incroyable Hank, comment vas-tu mon bon?
Ça va, tranquillou. Et pour fêter le fait que Finn Balor n'avait aucune place dans ce pay-per-view, j'ai mis son t-shirt.
Voilà, voilà. Caché par ton micro, mais.
Ah, ben bah on ne le voit pas, c'est. Voilà. C'est un t-shirt exclusif. Slamkrat, la loot box. Donc, bref. Super soirée en perspective.
Très bon, il y a du gros, il y a du lourd, il y a du spectaculaire. Tous les titres sont défendus hein, ce soir. Ça se passait à Dallas, au Texas, à l'American Airlines Center, plus précisément. Et on était le 9 juillet 2017. On va parler du kick-off. Kick-off bien chargé, puisque c'était le Cruiserweight Championship qui était défendu. Le roi Neville, hein, toujours champion, affrontait Akira Tozawa, représentant de la Titus Worldwide, donc accompagné au ring par Titus O'Neil. Un match où Tozawa est quand même surclassé par ce bon vieux Neville pendant longtemps dans le match, jusqu'à ce qu'il réussisse à se débrouiller à coups de kick et de suicide dive. Il va notamment profiter d'un moment où Neville essaye de le monter sur ses épaules pour lui placer le tarantula. Donc tout ça, c'est bien beau, mais quand même, Neville est le plus malin puisqu'il réussit a encastré le pauvre Tozawa sur la troisième corde, directement sur les bijoux de famille. Tozawa ne se relèvera pas, il va se manger un dernier coup de pied circulaire, et il va perdre pour le tomber de 3, victoire de Neville. Qu'est-ce que tu as pensé de ce kick-off?
Eh ben, bon, je vais être honnête, je ne savais pas que tu allais parler du kick-off. J'ai vu seulement les highlights, le replay qui était montré pendant le pay-per-view. Et ça avait l'air d'un très bon match. Donc du coup j'ai vu quelques très jolies pirouettes de Tozawa. Et surtout la séquence qui était, je trouvais, vraiment, vraiment sympa après le match, où il y a Tozawa qui pète un câble parce que voilà, tu l'as raconté, je crois, le coup de la corde à linge, non, le coup des great balls de Tozawa, donc du coup qui se ruine sur la corde à linge, donc la petite, pas tricherie, mais presque tricherie de Neville, et Tozawa qui demande à Titus, faut que tu te bouges, faut que tu fasses quelque chose. Et pour une fois, Titus qui prend pas les choses à la légère et qui dit d'accord, je vais m'occuper de te donner un rematch.
Donc va chercher du glaçon, des glaçons, je vais te faire un massage.
Oui, voilà, il lui dit également. Oh, mais va quand même voir les docteurs et tout ça. C'est vrai qu'il a pas l'air très inquiété par le fait qu'il s'est fait ruiner les bijoux.
C'est vrai.
Et donc ouais, donc je saurais pas dire grand chose. Le match avait l'air très bien, mais surtout, c'est sympa d'avoir un deuxième match. Mais après, vu comme c'est parti, j'ai l'impression que ça va pas être un obstacle à Neville. Hein. Ça va être.
Il a pas fait illusion, hein, Tozawa. Effectivement, ouais, ouais. Alors je suppose que ça devait être joli via les highlights, mais le match, franchement, c'était très très moyen. Moi, j'ai trouvé pour deux mecs qui se connaissent aussi bien parce qu'ils ont travaillé quand même ensemble à leur Dragon Gate USA. Ils ont eu pas mal de matchs l'un contre l'autre. Ça aurait dû aller beaucoup plus vite, ça aurait dû être beaucoup plus spectaculaire. On était vraiment encore une fois dans un match de cruiser. Booké comme un match d'heavyweight, le final était assez minable. Tozawa, il est enterré hein, si on reste là-dessus.
Ouais.
Donc voilà, moi je suis pas très partisan des cruiserweight à l'heure actuelle. J'ai plutôt tendance à les enterrer. Ce match-là m'a pas fait changer d'avis. Ça me conforte plutôt dans mon avis, comme quoi c'est vraiment très très mal fait ces cruisers.
D'accord.
Et il serait temps vraiment qu'ils révolutionnent tout ça. Voilà, bon.
Cruiserweight Revolution.
La Cruiserweight Revolution, c'est ça. Il est temps. On va pas s'attarder sur ce kick-off. Mm-hmm. On va passer au plat de résistance. Un opener assez fabuleux, deux grosses têtes d'affiche, pas moins que Bray Wyatt qui affronte Seth Rollins, ouais, dans un match très disputé avec un Bray Wyatt tout en puissance. Seth Rollins qui joue comme d'habitude la carte de la rapidité pour finir par réussir un peu à revenir dans le match. Hein. Il va placer son Sling Blade, son Blockbuster. Il est à deux doigts de prendre...
Son phénoménal forearm.
Son phénoménal forearm à deux doigts. Voilà toutes les techniques de babyface. Mais Bray Wyatt est bien le plus malin puisqu'en remontant dans le ring, à un moment donné, il réussit à placer un petit coup de pouce dans l'œil de ce bon vieux Seth Rollins qui est aveuglé, et c'est tout ce qui suffit après Wyatt pour réussir à placer le Sister Abigail. Ouais. Et la victoire contre toute attente de Bray Wyatt, voilà, un opener. Yes. Vraiment star power. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça?
Deux mecs qui se battent contre leur storyline de merde.
C'est ça. C'était transparent.
C'était un peu le match en fait. C'était les mecs qui font bon ok, on a eu une écriture toute pourrie, mais on va leur prouver que voilà, on mérite mieux. Et c'était un très très bon match. C'était vraiment un très bon match. Rollins bien en forme. Très varié dans ce qu'il a fait après j'ai un peu rigolé sur le finish parce que ça me fait toujours marrer les mecs qui sont aveuglés mais qui peuvent pas kick out. J'ai mal aux yeux, du coup je peux plus bouger, il peut plus bouger son corps, il peut pas sortir du tombé, mais bon non mais voilà, c'était un très bon match. Je suis super content de la victoire de Bray Wyatt. Après, j'espère juste qu'ils arrivent à la rattraper, cette histoire, en fait, qu'ils arrivent à faire quelque chose et qu'ils se tournent pas les pouces comme ils ont fait les dernières semaines, parce que du coup, on va encore genre se faire chier pendant 3 semaines et avoir un bon match, en 4 semaines et avoir un bon match dans 4 semaines. Le prochain, hein ? Est-ce que le prochain c'est direct ? Non, c'est pas SummerSlam, c'est si ? C'est le prochain pay-per-view. Non, il y en a un avant.
Il y a Battleground entre temps.
Battleground, oui, non, il y a Battleground. Oui, non, Battleground, c'est SmackDown. Donc, du coup, après, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais en tout cas, j'espère en tout cas que ça sera mieux écrit par la suite. Content. Puis surtout, finalement, cette victoire de Bray Wyatt, même s'il y a le petit coup dans les yeux. Elle est presque clean, elle est pas, y a pas d'intervention extérieure, donc ça fait du bien pour Bray Wyatt. Il avait besoin d'une victoire, et justement c'est le moment de faire tourner cette rivalité et d'arrêter les enfantillages de je suis un dieu, je suis non t'es pas un dieu, etc. Là Bray Wyatt il lui a montré qu'il surpassait, donc. Il faut qu'il y ait quelque chose comme un doute chez Rollins. Il faut qu'il y ait quelque chose, un nouvel angle dans cette histoire. Mais c'était un très bon opener.
Ça, c'est sûr. Ouais, niveau de qualité du match, effectivement, c'était très 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 correct. Moi, je suis jamais rentré dans le match, hein, honnêtement.
Ah bon ?
J'ai regardé ça de. T'as un œil distrait. Alors, j'ai testé, si tu veux, les commentaires français de Raymond Rougeau et de Jean Brassard. Donc, ça m'a rappelé ma jeunesse. J'étais un petit peu transporté. Ce qui fait que j'ai quasiment pas rentré du tout dans le match tout du long. Mais il n'y avait rien de, catastrophique. C'était joliment exécuté. Mais bon, quand il y a une storyline qui va nulle part, ouais. On est sur un match qui va manquer d'intensité, même si les deux on fait du bon boulot.
Après, le truc aussi, c'est que j'aime beaucoup les deux. Enfin, Rollins, c'est mon chouchou depuis tellement longtemps. Donc, cette histoire des commentateurs canadiens, j'ai entendu sur. C'est ça le 4, justement. Il me semble. Attends, c'était sur C'est ça le 4. Que, soi-disant, Agius et Chiro, en fait, pour l'instant, là, ils sont un peu écartés des invitations de la WWE, et est-ce que ce serait ça, du coup, ce serait genre les Canadiens qu'ont pris la place du commentateur francophone, et des commentateurs francophones, et ça c'est un peu
Ouais, ça c'est un peu triste effectivement. Hein. Ils vont devoir rester dans leur studio en France. Les Ajus et Chéreau, c'est renouvelé le contrat avec AB1. Donc ils vont continuer à faire les commentaires à la télé, mais sur le network, sur le réseau, comme ils disent, le réseau WWE, ce sera la team old school, Jean Brassard, Raymond Rougeau.
Ouais,
donc des commentaires à l'ancienne, bah c'est plus. En fait, tous les commentateurs étrangers qu'ils ont, c'est des gens qui habitent aux États-Unis en fait. Hein. C'est pas des c'est pas des mecs qui bossent pour la DSF ou pour la télé russe. C'est comme ça pour tout le truc international.
Donc en fait. Du coup, ça va leur sucrer leur place dans les pay-per-view quoi. C'est ça qui est dommage.
Mais a juste expliqué qu'il était pas. Oui, ça le dérangeait pas plus que ça parce qu'il avait eu, son passage à WrestleMania.
Ouais, il a eu deux.
Il avait déjà tout fait.
Ils ont fait deux WrestleMania, je crois.
C'est ça, à peu près, ouais. Et voilà, il a vu la défaite de l'Undertaker en live, il l'a commenté en live. Lui, ils ont pas l'air trop amers de ce qui se passe.
Moi, j'aurais bien aimé. Enfin, bon, après, c'est sûr que ça doit être compliqué, mais j'aurais tellement aimé que. Qui fassent tellement confiance à Ajus et Chéreau que finalement ils les importent sur le network et que et qu'ils se mettent à faire du contenu en français, enfin du doublage en français sur les contenus de la WWE, ça serait vachement bien. Et après ça casserait leur contrat avec AB1, ça serait compliqué quoi.
Bah c'est ça, oui, ça doit être délicat au niveau des contrats. Puis ils ont leur façon de faire, la WWE, voilà, ils ont toujours mis de côté un petit peu la France, donc ils avaient un petit peu les mains libres, mais voilà, maintenant t'as le network qui est diffusé jusqu'ici, il doit y avoir suffisamment d'inscrits francophones pour qu'ils soient décidés à faire une version vraiment française. Et puis voilà, ils ont ramené les deux commentateurs de notre enfance.
C'était ceux qui s'occupaient de la WWE sur Canal.
C'est ça, dans les dernières émissions. Donc c'était pas eux au départ, mais c'était la dernière team. Alors je détestais Jean Brassard quand j'étais jeune, mais là maintenant ça va, il a bossé, il a lu ses fiches et tout, c'était bien, il avait
travaillé. C'est moins comique
Ouais, c'est plus old school, c'est un peu une version de Jerry Lawler et comment s'appelle-t-il ce vieux Texan à chapeau.
Non, j'allais dire JR.
JR, Jim Ross. Voilà, ils ont un peu la même dynamique entre les deux. Il y a un méchant un peu caricatural et puis le gentil qui commente en play-by-play, quoi.
Okay.
C'est sympathique. Raymond Rougeau, lui, c'est un ancien catcheur WWE, donc il maîtrise bien tout ce qui est technique dans les descriptifs, les choses comme ça. Mais c'est vraiment une autre façon de commenter, très, très old school.
Hein. Ah, faudrait que j'essaye. J'ai gardé le...
Puis c'est rigolo, il francise toutes les prises. Donc il y a le Dirty Deeds qui devient le sale coup. Et toutes les sortes de choses.
Il lui a mis un sale coup.
Le sale coup. Voilà mon petit coup de cœur de la soirée. Voilà, hein, Bray Wyatt face à Seth Rollins. On aura la suite à Monday Night Raw, hein, je pense. Ça ne va pas s'arrêter là. Seth Rollins, il va vouloir sa revanche. Un gros affrontement encore qui va suivre, qui sort d'une grosse storyline, hein, qui une scène de suspense à Monday Night Raw. C'est l'affrontement tant attendu entre Enzo Amore et Big Cass. Enzo Amore qui débarque au ring et qui va nous faire une longue promo de quasiment 10 minutes où il va cracher ses tripes, il va mettre le feu au public. Il n'est pas là pour se faire battre, ça va taper sec. Big Cass débarque, Enzo se jette dessus, le frappe avec ses petits poings, mais c'est tout ce qu'il fera du match. Après, il va se faire laminer pendant de longues minutes. Hein. Big Cass va s'amuser avec lui jusqu'à le prendre, le soulever, le jeter à l'extérieur du ring. Et puis ça va se terminer.
Il revient, il a deux doigts de se faire compter à l'extérieur et il revient quand même dans le ring pour taper le Big Boot.
Voilà. Serpillère, torchon, chiffon, carpette. 1, 2, 3, c'est fini. Big Cass est le grand gagnant. Il lève le bras, il est content. Il a une nouvelle musique.
Elle est horrible, sa nouvelle musique. Putain.
Elle est horrible, sa nouvelle musique, exactement.
Dubstep.
Un style un peu horrible aussi et un physique pas au top, hein, Big Cass. Je ne l'ai pas trouvé très affûté. Hein. Je le trouve un petit peu bedonnant. Mais dis-nous un petit peu ce que tu as pensé de ce match, ce qui est un squash.
Finalement, ce qui est le ce qu'il y a à raconter sur ce match, c'est surtout la promo de Enzo avant. Alors j'aurais pas tout à résumer parce que en fait il est parti, je crois, d'une chanson, une vieille chanson de Sinatra ou un truc comme ça. Et
il a parlé de son amour de Sinatra, effectivement.
Voilà. Et en fait il a un peu décortiqué les paroles et repris ça vis-à-vis de son histoire avec Big Cass. Mais surtout ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait donc du coup cette grosse promo où il a chauffé le public au fur et à mesure. Il avait de plus une pop de plus en plus grande à chaque fois qu'il finissait ses phrases. Et il a fini par enterrer finalement Big Cass en utilisant la catchphrase de Big Cass, S-A-W-F-T, l'histoire de dire ta réputation elle est morte, ton gimmick il est mort parce que c'est moi qui ai tout fait, etc. Et donc du coup c'est vraiment genre l'insulte suprême. Il a terminé avec tout le public qui désignait Big Cass, Casshole, comme dirait l'autre, comme soft, S-A-W-F-T. Mais sinon le match, c'était ce que tout le monde attendait, c'est-à-dire Enzo qui se fait balader comme un pantin. J'ai pas l'impression que les deux aient plus brillé que ça, à part peut-être. Enfin, en tout cas, ça a pas endommagé la réputation de Enzo, parce que personne s'attendait à ce qu'il gagne, et que juste avant, il avait fait une promo, quand même, une des meilleures promos, je pense, de l'année. Hein.
Un peu trop longue, à mon goût, mais.
Ouais, elle était. Ouais,
il dégage au micro, hein, il a pas à chier.
On a l'impression que là, ces derniers temps, il doit avoir 2 minutes d'écrite et après le reste, il fait un peu ce qu'il veut. La dernière fois, là, à Raw, il avait fait n'importe quoi. Il avait fini sa promo, il est parti, il est revenu, il a repris le micro. Enfin, c'était bizarre.
Ouais, il lâche plus le micro une fois qu'il l'a. Ça va devenir sa spécialité, je crois.
Donc voilà. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec ça? Comme je disais, justement, dans, je sais plus si c'était le dernier podcast ou l'avant-dernier. Ils auraient sûrement une alliance, ils auraient sûrement un match en tag team l'un contre l'autre plus tard. Donc peut-être que Enzo va aller chercher Big Show et Cass, je sais pas qui. Il a mis avec personne, Cass.
Ça va être difficile pour Big Cass à mon avis parce qu'il n'est pas assez spectaculaire dans
le ring. Je vois pas ce qu'ils vont faire. En tout cas, c'était ce qu'il fallait. C'était pas trop long, et c'était pas trop court non plus parce que si on voit un squash, ça aurait été un peu rude. Donc voilà, bon moment, rien d'exceptionnel, ouais. Mais ça a fait le boulot.
Enfin, je me demande s'ils auraient peut-être pas dû parier un peu plus sur Enzo, parce que j'ai l'impression que finalement c'est lui qui va faire plus de pognon que Big Cass, parce qu'il est quand même sacrément populaire. Et je me demande si en l'envoyant pas un peu dans les cruisers, faire un peu des trucs solo, il serait pas susceptible de faire plus de pognon que Big Cass, parce qu'il vend quand même bien de plein de t-shirts, il vend ses moumoutes là.
Je sais pas s'il ferait vraiment plus de pognon en gagnant des matchs. Enfin,
pas forcément en gagnant des matchs, mais en, je sais pas, en prenant du temps d'antenne et en devenant une espèce de mascotte la WWE. Donc, je pense qu'ils ont peut-être plus de fric à se faire avec Enzo.
Ça clairement. Hein, de toute façon, ça rejoint le kayfabe. Hein, Enzo, il dit clairement en kayfabe, c'est moi qui fais le pognon, c'est moi qui ai les catchphrases, c'est moi qui tiens le public dans le creux de ma main et toi t'es juste un géant et t'as rien d'autre. Et le gars, il sort, il valide totalement son discours parce que après, il arrive, il est dans son espèce d'attirail pourri où il est tout en noir avec un slip marqué Queens New York. Parce que c'est son nouveau gimmick, il vient du Queens, c'est super intéressant. Bravo.
Oui, c'est une attitude extrême, hein, quand même.
On a l'impression d'un mec qui vient d'arriver à NXT, quoi. C'est quoi mon gimmick? Je viens de New York, super.
Et puis sa plus grosse prise, c'est de faire un big put par-dessus la troisième corde. Il va finir par se blesser et finir sa carrière assez rapidement, à mon avis. Mais bon,
ouais. Il faut lui trouver. Moi, j'avais dit aussi, je sais plus, quelques podcasts que Cass, s'il passe en heel, il faut lui faire un package entier, etc. Et là. là on sent que c'est fait à la va-vite hein. Pour l'instant il a pas de il y a pas d'idée derrière et faut j'espère pour lui que ça va arriver vite parce que sinon il va arriver dans la zone je sais pas la zone comme quand Rousseff est au fond de la carte et on sait pas pourquoi à part que Rousseff lui il a quand même plus de charisme mais
Ouais, des big guys qui servent à rien.
Ouais.
Bah, un swagger qui avait pas mal de talent, il est pas arrivé très loin. Si, bon, il a quand même été champion, mais c'était à une époque où tout le monde devenait champion.
Et quand il était avec Zeb Colter.
Bon, enfin, on dit ça, mais Jindermal est champion de la WWE, donc tout est possible. Hein.
À SmackDown, tout est possible.
Land of Opportunity.
La terre des opportunités.
Voilà, bon. Voilà ce qu'il en était de ce grand match qui a mis fin à l'intrigue de la Team Soft. On enchaîne toujours dans les tag teams, mais cette fois un vrai match de tag team. Les champions, Cesaro et Sheamus, qui défendent leur titre contre les Hardy Boys. 30 minutes de match dans un Iron Man match, un match marathon. Donc pour les ceintures d'Euro, par équipe du 4 à 4 à son meilleur. Voilà, donc il faut faire le plus de tombées possible en 30 minutes. Et ça commence très fort, puisque grâce à une diversion de Cesaro qui se jette sur Jeff, sur Matt, qui est l'homme légal, mais qui se faufile sur le côté, et ben ça permet à Sheamus de placer un broad kick destructeur qui met KO Matt 1, 2, 3, et tout de suite, au bout de 20 secondes, premier tombé. Pour les champions, Sheamus, Cesaro, qui prennent l'avantage directement.
Remake de sa victoire contre Bryan à WrestleMania.
Exactement. Alors, ceux qui disent que c'est pas crédible, non, c'est crédible, puisque Daniel Bryan s'est fait sécher à WrestleMania à l'époque par un bro kick. Un bro kick, ça vous sèche, c'est tout, c'est comme ça. Voilà. Alors, les champions, ils continuent sur leur lancée, parce qu'un peu plus tard, avec leur fameux combo, là, où Sheamus fait le white noise et Cesaro l'accompagne avec une descente de la troisième corde, je crois que c'est Matt Hardy encore qui se fait sécher. On est à 2-0 à ce moment-là. Mais les Hardy n'ont pas dit leur dernier mot. Ils reviennent dans la partie. Un enchaînement de twist of fate, side effect. Hein, on enchaîne tous les finishes sur Cesaro qui finit par se manger le tombé. 1, 2, 3. Ensuite, un peu plus tard, on va avoir un sunset flip qui est bouclé par Jeff Hardy avec une double descente des jambes là, pour coincer Cesaro dans un espèce de petit paquet. Là, ils sont à deux à faire le petit paquet sur lui. Ça va permettre au Hardy de prendre la deuxième tombée. Donc, on est à 2-2. Alors, un peu plus tard, ça va partir dans tous les sens. Il y a du side... du twist, comment on appelle ça, twist of fate du haut de la troisième corde de Matt Hardy sur Sheamus, là où il manque de se tuer tous les deux, là c'était horrible. Swanton Bomb et compagnie sur Sheamus, mais alors bizarrement, Cesaro qui a fait apparemment un blind tag que peu de gens ont vu, réussit à se glisser, il fait le tomber, on est à quelques secondes de la fin du match. Voilà, les champions prennent l'avantage avec un tombé de plus. Ça se poursuit, ça se court après, on réussit à placer encore un twist of fate sur Cesaro, mais il est trop tard, on est à une seconde de la fin. L'arbitre ne peut pas terminer le tombé et c'est bien la victoire de Sheamus et Cesaro qui conservent leur titre. Ouais. 30 minutes quand même d'une bataille acharnée, Matt Hardy termine en sang, Sheamus a l'air bien sonné à la fin du match. Il y a eu quand même un gros ventre mou dans le match hein, pour un peu faire respirer les vieux Hardy, et ça s'est emballé sur les 10 dernières minutes. C'était vraiment beaucoup de suspense, très virevoltant dans tous les sens, enchaînement de finishers, pas très clair, pas très lisible ce blind tag là de Cesaro qui surprend un peu tout le monde. Est-ce que toi ça t'a passionné ce match ou est-ce que ça t'a laissé de marbre?
Entre les deux, j'ai eu un avis un peu mitigé parce que j'avoue que j'ai perdu un peu d'intérêt pour le match au bout de 5 minutes, un truc comme ça, où que ça commençait à être... Après ce tombé super rapide, on a vu qu'ils ont rebaissé vraiment l'intensité, que c'était c'était un peu laborieux, c'était un peu Jeff qui se prenait tout dans la gueule au milieu du ring, et puis voilà, j'ai ouais, la fin du match, vraiment les, ouais, les 5 derniers, enfin peut-être un peu plus que 5 minutes, mais les 10 dernières minutes étaient vraiment un peu plus mouvementées, mais j'ai je sais pas, cette impression bizarre où c'était un bon match. Il y avait des bonnes combinaisons de Cesaro et Sheamus. Il y avait quelques bonnes choses aussi de Jeff et Matt. Mais c'était très condensé en fait. C'était vraiment des moments. Il y avait 1 minute 30, 2 minutes qui étaient vraiment bonnes. Et ensuite on repart dans la mélasse où genre il y en a un qui est un peu en soumission. Il y en a un qui fait un peu ça se chamaille un petit peu à droite à gauche. Mais c'est pas la tension était pas vraiment. Je trouvais ils auraient pu mieux booker le match. La tension était est venue que vers la fin en fait. Du coup cette espèce de, je sais pas s'ils l'avaient vraiment prévu, mais le dernier tombé au moment où le chrono est parti à zéro en fait, qui s'est terminé sur deux en fait, c'est terminé tombé de deux. Donc voilà, et c'était sacrément effrayant la blessure. Alors ensuite on a su que c'était pas si grave que ça. Ça devait être genre il s'est ouvert l'arcade ou un truc comme ça.
Ouais.
Mais ouais, Matt Hardy a pu pisser le sang à la fin. C'était violent. Donc voilà, après c'est ils ont gagné à la régulière, ce qui est un peu. Parce qu'on nous avait vendu un peu Sheamus et Cesaro comme étant des gros tricheurs. Et là, pour le coup, ils ont juste été malins. En fait, ils ont un peu fait, pas au même niveau, mais ils ont un peu fait des choses qu'on voit chez nos chouchous, les Revival. Au niveau des blind tags, de la rapidité, de genre les adversaires qui les voient pas venir, genre il y en a un qui fait un truc pour perturber l'un et l'autre qui passe derrière, etc. Donc ça c'était intéressant. Après j'ai peut-être aussi l'impression que ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup mieux avec en face une équipe qui est plus en forme, parce que d'un côté t'avais des mecs qui couraient à droite à gauche, et puis de l'autre côté t'avais des gars qui étaient quand même ils sont plus trop en forme, les Hardy. Ils font encore des belles combinaisons, des beaux finishes, etc. Mais pour mettre le rythme à un match de 30 minutes, je pense que c'était too much quoi, donner 30 minutes aux Hardy. Peut-être que c'était un peu too much. C'était pas une catastrophe non plus, c'était un bon match. Mais ça, si on me demande est-ce que ça méritait 30 minutes, je dirais non en fait. Ça méritait peut-être pas 30 minutes quoi.
Ça s'emballe vraiment dans les dernières minutes, les 10 dernières minutes, et puis on sent quand même que on leur sert un petit peu la soupe entre guillemets aux Hardy, parce que le Cesaro, Sheamus, Cesaro il est quand même un des meilleurs du roster, et Sheamus il est aussi, il a pas mal musclé son jeu depuis qu'il a eu sa rivalité avec Cesaro, et depuis qu'ils sont en équipe, donc ils sont vraiment ces deux catcheurs qui sont vraiment au top. Et on voit qu'ils sont obligés de rentrer dans le scénario, de se laisser faire un petit peu, il y a un petit problème de crédibilité entre guillemets, mais bon, les Hardy sont tellement populaires et ils ont quand même leur savoir-faire qui est assez c'est des professionnels, des vieux roublards, ils savent quand même gérer.
Matt, un jour il faudrait que, enfin bon, je pense que c'est trop tard, mais un jour il faudrait qu'il perde son bide quand même. Matt Hardy, quand on le voit avancer comme ça avec les mains comme ça, et qu'il met bien son bide en avant, on a du mal à
avec ses chevilles de canard là, il marche comme un canard. Mais ça a jamais été un catcheur exceptionnel non plus, hein, Matt Hardy. Maintenant en plus il est vieux, donc il s'en était bien sorti avec son gimmick de Broken Matt. Il y a un charisme maintenant qui ressort, qui est encore plus prégnant que dans sa jeunesse. Mais après, pour ce qui est de l'in-ring lui-même, ça a jamais été un des catcheurs les plus emballants quoi. C'est toujours très chorégraphié ce qu'il fait, et ça se voit encore là. Jeff, lui, était beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus unorthodox, mais là aussi les années se font sentir. Donc voilà, mais bon, après, c'est effectivement, comme tu dis, on sent l'impact aussi du revival des matchs qu'ils ont fait avec DIY, parce que c'est quand même booké assez sérieusement, c'est quand même assez travaillé. Hein, alors, c'est des vrais matchs par équipe, quoi. On n'est pas encore au niveau, évidemment, de ce qui se faisait à NXT, puisqu'on n'est plus avec des genoux pour la plupart, mais au moins, c'est travaillé un minimum et il y avait du suspense jusqu'au bout, quand même. Après, c'est sûr que 30 minutes, ça fait peut-être un peu long. Il y a un ventre mou comme ça. Mais
et là, on a envie de voir le duel de qualité chez Zaro contre Revival.
Ça va être... Ouais.
Est-ce qu'ils vont le faire? Parce que bon, ouais, c'est deux équipes heal, mais à savoir qui fait mieux les Revival. Chez Zaro ou Revival?
C'est ça. Ah, ça peut être un match énorme, hein, Revival contre Cesaro. Mais c'est vrai qu'il faudrait décider d'un face, parce que le Revival contre un heal, ça ne fonctionnera pas à 100%, comme ça pouvait marcher contre DIY, quoi.
Je comprends pas. Si, je comprends, c'est à cause des Hardy, mais ça aurait été tellement mieux de garder Sheamus et Cesaro en face. Hein. Ça marchait très bien. Le public était vraiment dedans, donc.
Il y a beaucoup trop de heals dans le roster actuellement. Ouais. Donc
Retournez-les en face. Bah, justement, dès qu'on aura... Alors, je n'ai pas regardé Raw, mais dès qu'on aura des broken Hardys, il sera temps de peut-être... je n'ai pas trouvé un moyen de faire revenir Sheamus et Cesaro du côté clair de la force.
Voilà. C'est ça. Parce qu'on ne va pas faire passer les revivals en face. Hein. Non, arrêtez.
Faites pas de bêtises, s'il vous plaît.
Conneries. Voilà, il y a encore du boulot dans les tag teams, mais c'était quand même convaincant ce soir. Allez, on va faire un tour du côté des filles. Alexa Bliss défend son titre face à Sasha Banks dans un match simple, un match normal pour la ceinture des féminines de Raw. C'est un bon match de Sasha Banks hein, qui, voilà, comme d'habitude, déroule le grand jeu. Alexa Bliss, elle arrive à suivre derrière. On sent qu'elles ont répété quand même derrière parce que c'est millimétré. Elles déploient toutes les deux, hein, toute leur panoplie de coups. Sasha Banks, c'était son dégenou, etc. Des prises de soumission dans tous les sens. Alexa Bliss, elle ressort ses petites pirouettes, là, c'est des salto arrière avec descente du genou. Elle nous fait le petit coup de son bras qui se déboîte en début de match sur un coup de coude de Sasha.
Michael Cole. Ah oui, mais du coup, t'as pas eu Michael Cole, toi, dans les commentaires. Michael Cole, non. Mais il nous a saoulé pendant 2 minutes là-dessus.
C'est vrai.
Mais il nous a fait genre, oh, mais vous avez déjà vu ça, mais j'ai jamais vu personne le faire, etc. Alors que bon, on l'a déjà vu faire ça il y a pas très longtemps, en fait. Bon, c'était à SmackDown, mais.
C'était à SmackDown, ouais. Je me demandais si c'était à NXT ou si c'était. Mais c'était bien à SmackDown.
Mais peut-être qu'elle l'a déjà fait à NXT, je sais plus.
Faut plus qu'elle le fasse, d'ailleurs. C'est dégueulasse à voir.
Bah, moi, pour le coup, ça m'a. Du coup, comme je l'avais déjà. J'avais vu la fois où c'était à SmackDown, donc du coup, quand elle l'a fait, ça m'a pas surpris. Mais. Ça m'a pas surpris. C'était une bonne. Une bonne occasion de le faire. Mais vas-y, continue.
Oui, donc voilà, tout ça est très serré. Sasha Banks va réussir à placer Alexa Bliss dans le bank statement, l'état de compte, comme on dit.
c'est vraiment l'état de compte.
C'est vraiment, je ne donne que la vérité. Je suis
désolé. Oh mon Dieu.
Alexa Bliss va batailler ferme pour atteindre les cordes. Elle va réussir à attraper les cordes après de longues minutes et elle va finir par se faufiler à l'extérieur du ring dans un final un peu anticlimatique, hein. Elle va décider d'abandonner le match. Elle reste contre la barricade, le décompte est fait, elle est comptée à l'extérieur du ring, elle perd le match mais elle conserve la ceinture. Voilà ce qu'il en était de ce championnat féminin. Une belle désillusion à la fin, mais ça, il y a quand même un beau déroulé à mon avis. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, mon bon Hank?
Mais la suite ringside.
La suite, exactement, la suite. On avait oublié que les filles, hein, savaient faire des grands matchs. Hein.
Non, mais je disais la suite du match. Parce que
après... Ah, la suite du match. Je savais que j'allais oublier.
Non, mais parce qu'après, on a Sasha Banks qui fait non, ça va pas se passer comme ça.
Ça va pas se passer comme ça.
Donc, du
tu
coup,
veux raconter tire...
Je bah, te si laisse. Tu... Ouais. Donc, du coup, elle tire Alexa Bliss, elle la remontre jusqu'au Titan Throne. elle va pour déblayer un peu la table des commentateurs. Donc on se dit, elle va tenter, je sais pas quoi, une powerbomb ou un truc du genre. Et à ce moment-là, elle se fait contrer par Alexa Bliss. Donc du coup, les deux sont sur la table des commentateurs. Et là, elle arrive quand même à balancer, je crois, Alexa Bliss en contrebas.
Exactement.
Et elle lui saute dessus, elle lui fait le saut avec les deux genoux vers l'avant. Sur le béton, oui, voilà. En contrebas, bien 3-4 mètres en dessous, quoi. Et donc c'est comme ça que ça se termine. Et ce qu'on a vu entreaperçu quand Alexa Bliss se relevait, c'est qu'elle s'est bien fait cogner. Elle avait les lèvres en sang. C'était un peu la thématique de la soirée. Il y a beaucoup de gens qui étaient confinés en sang dans les matchs.
Ça a saigné sec.
Donc voilà. Je racontais ça parce que pour moi c'est super important parce que le match était très bon.
C'est vrai.
Mais surtout la fin était vraiment bonne parce que du coup il y a pas de moi je déteste les matchs qui se terminent avec un heel qui gagne par abandon, qui gagne en restant à l'extérieur ou en se tirant, etc. C'est un truc. Enfin bon, c'est un classique du catch, mais c'est un truc que j'aime pas. Et
y a beaucoup de gens qui détestent. Hein.
Voilà. Et là c'était parfait parce que du coup ça a relancé Sasha Banks. On sait que ça va continuer. Est-ce qu'ils vont mettre Nia Jax dans le lot? Peut-être. Le match était vraiment très bon. Hein. Je pense que c'est un des meilleurs matchs d'Alexa Bliss depuis qu'elle est arrivée. Je la critique souvent sur le fait que elle fait pas, surtout je disais avec Bayley où les matchs étaient, je l'ai pas trouvé terrible. Là vraiment c'était bien, c'était pas parfait tout le temps hein, quand elle faisait ses pirouettes, des moments c'était un peu à côté, mais voilà. Après aussi le talent de Sasha Banks fait pour beaucoup dans ce match. C'est grand saut pour se sacrifier, etc. J'ai pas de spot en tête, si je sais que elle lui a mis une bonne dizaine de coups de genou à droite à gauche en lui fonçant dessus, etc. Il y avait des passages où si on regarde de loin, c'est violent.
C'était tout en mouvement comme ça. Ouais.
Il y avait des choses qu'ils ont montrées qui étaient quand même sacrément violentes pour du catch féminin. Voilà, très très bon match. La rivalité était. Mériterait encore plus d'écriture et de un petit peu plus de tension ou de bonne promo entre les deux parce que ça n'a pas été foufou, mais ouais, non, vraiment
pas qu'ils nous fassent la vie de Sasha Banks, ça.
Ouais, non, mais je crois qu'ils ont compris ça. Très 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 bon. J'ai vraiment envie de voir la suite là pour le coup, même s'ils mettent Nia Jax dedans, ouais, ça m'intéresse.
Ouais, voilà, hein, Sasha Banks de nouveau dans le main event des filles, ça fait du bien. Hein. Comme je disais, on avait oublié à quel point elle pouvait faire des bons matchs. Et pour moi, c'était pas loin d'être au niveau in-ring déroulé le meilleur match de la soirée comparé à tout le reste. Alors peut-être pas ce qui vient un peu plus tard entre les deux colosses, mais au niveau fun, moi, c'est ce qui m'a le plus plu, je trouve, dans la soirée. Comme tu dis, Alexa Bliss, elle a bien musclé le jeu. C'était bien mieux que ce qu'elle a pu sortir parfois à SmackDown contre Becky Lynch. Souvent, c'était très, très approximatif, même plus qu'approximatif. Là, voilà, ça cliquait, c'était bien, c'était rythmé comme il fallait, tout en mouvement, et puis cet incroyable post-match là, où il y a cette descente des genoux de Sasha Banks sur le béton, la descente de 3 mètres là, incroyable, elle remet encore
dangereuse
un petit coup de pied dans le ventre.
Il y a l'estrade, qui est à 1 mètre de là où elle tombe, il y a l'estrade, à droite, il y a les barrières qui sont pareil à moins d'un mètre, donc si elle se rate, elle peut se péter la tête.
C'est les genoux en avant sur le béton, hein.
Ouais, aussi.
Donc moi je veux bien, mais c'était même limite trop dangereux, hein, quand même. Mais voilà, sacrée image, sacré finish, voilà, 20 sur 20 pour les filles. On est content de revoir ça. Haro, hein, c'est pas pour rien qu'on était content de la révolution. C'était pour voir des choses comme ça. Et puis on espère que ça va continuer.
Yes.
Allez, avançons après ce très bon moment. Le championnat intercontinental. Le Miz, accompagné de Maryse, le Miz Tourage,
enfin.
Bo Dallas, Curtis Axel, qui va affronter dans un combat inédit Dean Ambrose, le Lunatic Fringe. Mm-hmm. Donc un match comme on a vu à peu près 40 fois hein, depuis un an. Ça se rend coup pour coup. Le Miz, à un moment donné, va travailler la jambe de Dean Ambrose. C'est le petit truc un peu spécial de la soirée.
Dans tout bien, bon, tout honneur.
Ambrose, il va très vite au début. Hein, il va attaquer l'entourage tout de suite. Ça démarre à 100 à l'heure. Je me suis dit, ça y est, on va avoir le Dean Ambrose des grands soirs. Mais finalement, pas spécialement. Il va se faire bien attaquer la jambe, prise en 4, etc. Et à un moment donné, il va quand même réussir à porter le sale coup, le dirty deed sur le Miz. Mais... pendant le compte, Maryse va prendre la jambe du Miz et la poser sur les cordes. Donc l'arbitre annule le compte. Hein, mm-hmm. Voilà. Et évidemment, à la fin, intervention du Miz Tourage hein, qui va un peu faire perdre les pédales à Dean Ambrose, qui arrive à se défendre et qui va quand même se prendre un petit coup de Bodala derrière la tête et puis se manger le Skull Crushing Finale.
Pardon. Et alors le Skull Crushing Finale en canadien ?
Ils l'ont pas traduit, je crois.
Oh merde.
C'est
le final, c'est le final qui casse la tête.
Le final qui casse la tête, voilà. Le crâne cassé final. je dirais comment ils appellent Roman Reigns un peu plus tard. voilà. Donc, après le Skull Crushing finale, on ne se relève pas. Hein, donc le Miz conserve sa ceinture. Après un match très 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 classique où encore une fois le Miz Tourage n'a pas fait grand chose, ouais. Est-ce que c'est Maryse hein, qui sauve les miches du Miz est-ce que tu as quand même trouvé un intérêt spécial à ce match ou t'es
non.
Un petit peu déçu comme
non
non non même le costume de Bo Dallas en
j'étais biker, j'étais à deux doigts de la pause pipi pendant ce match pourtant j'aime bien alors par contre s'il y a un truc que j'ai bien aimé dans ce match qui concerne pas vraiment le match, c'est les looks totalement différents et distinctifs de Curtis Axel et de Bo Dallas. Il y en a un qui s'est dit bon tiens on va jouer alors Curtis Axel on va jouer les méchants un peu mafia en costard et Bo Dallas il s'est dit on va jouer les méchants face en biker et donc du coup ils avaient deux gimmicks qui allaient pas du tout ensemble. C'était n'importe quoi. Le match franchement j'en ai quasiment aucun souvenir du match à part le finish. C'était ça servait à rien à part nous on croise les doigts nous dégager Dean Ambrose de la ceinture intercontinentale. Arrêtez. Mettez-le au départ.
Ils arrêtent un petit peu leur rivalité, ça fait un an qu'ils sont dessus.
Le gars il accroche à la ceinture partout où il va. Enfin tu me diras le Miz mais le Miz il est venu avec la ceinture donc c'est logique. Donc voilà, s'il vous plaît, arrêtez avec Dean Ambrose. mettez-le au départ s'il vous plaît.
Lui faire son heel turn là.
On veut avoir autre chose.
Ça pue à rien.
Ouais, alors il y a deux secondes tu disais qu'il y avait trop de heel en haut donc bon.
C'est pas faux, mais non, mais dans la division tag team, il y a aucun face hormis les Hardy. Là, je suis encore dans le solo. On peut faire quelque chose après. Ouais, ou alors faire autre chose à Dean Ambrose. Je sais pas, qu'est-ce qu'il peut aller faire, mais il faut qu'il lâche le Miz. C'est plus possible. Il gagnera jamais contre le Miz de toute façon maintenant.
Ouais. Et puis il est pas drôle quoi. Il est pas amusant, il peut pas perdre comme Enzo, tu vois. Enzo, il est amusant quand il perd pas, entre ses défaites, il est amusant Enzo, en tout cas ces derniers temps. Et pendant un temps, il était pas terrible. Mais Dean Ambrose là en ce moment, c'est le même cinéma à chaque fois qu'on le voit, c'est du blabla et puis en face de lui, il a un dieu du micro quoi. Donc du coup, il peut pas
Disons que s'il perd à chaque fois, ça fonctionne pas son personnage d'espèce de petit malin, un peu rien
encore,
à foutre.
Il y avait un bon équilibre, je trouve, quand c'était Dean Ambrose contre Ziggler. où là ils avaient une bonne dynamique entre les deux, parce que c'est pas deux c'est deux mecs qui se débrouillent au micro, mais c'est pas deux mecs complètement enfin ils étaient à peu près au même niveau, je dirais moi, au micro, entre Ziggler et Ambrose et donc voilà. Mais là avec le Miz ça marche pas, parce que le Miz, quand il fait un segment, dès que Ambrose, enfin j'ai déjà dit dans les weekly, mais dès que Ambrose arrive, ça chute, les audiences baissent, monsieur. Donc du coup voilà, et puis, on espère que c'est vraiment la dernière, qu'il trouve autre chose. Je sais pas pour quelle raison il pourra arrêter, mais qu'il trouve une raison pour qu'il arrête, qu'il se fasse attaquer par quelqu'un d'autre. Voilà
exactement. Rebattons les cartes et puis faut partir, voilà, sur autre chose.
Le match servait pas, enfin justement il servait pas à grand chose. Espérons qu'il serve au moins à ce que voilà, on arrête avec cette rivalité. Ça serait bien.
C'était pas mauvais, mais c'était pas intéressant. C'est ça le.
Oui, voilà.
Enfin, pas assez d'interférences.
C'est un match. C'est un match qui aurait pu être à Raw, quoi.
Voilà, exactement.
C'est ça.
Un peu trop léger pour un pay-per-view. Puis ça vient après les filles et après le match d'une demi-heure des tag teams. Donc les gens étaient un peu fatigués. Voilà, ouais. On est un petit peu. C'est un petit peu difficilement digeste. Mais bon. On espère qu'ils vont relancer tout ça.
Bon, allez.
Des rivalités un peu plus intéressantes. On passe au gros morceau.
Voilà, là, le gros morceau.
Deux titans qui vont s'affronter. Braun Strowman, le monstre parmi les hommes. Et Roman Reigns, le grand maître chien. Donc, pour un match de l'ambulance.
Maître chien dans la vraie vie.
Voilà. Donc il faut mettre son adversaire dans l'ambulance, hein. C'est ça, hein. Vous l'en mettez dans l'ambulance, vous fermez les portes. Donc Braun Strowman très dominant, hein, sur Roman Reigns, tout en puissance, il détruit le Samoan pendant de longues minutes, hein, qui n'arrive pas à prendre l'avantage sur le gros Strowman. Il faudra qu'il utilise des chaises, hein, pour essayer d'exploser l'épaule et le bras, hein, qui était récemment blessé de Braun Strowman. Mais ça suffira pas pour mettre hors d'état de nuire Strowman. Donc ça se casse une sévère, hein, dans tous les sens. On les connaît, les deux là, et bah ça va finir par s'approcher de l'ambulance. Alors hein, ça s'envoie ça va aller traverser le mur d'image. Hein. Reigns va réussir à faire quand même passer Strowman à travers le mur d'image. Après s'être fait un peu valdinguer dans tous les sens, hein. Lui a fait manger encore une fois l'ambulance. Les deux sont à bout de force. On se retrouve face à l'ambulance. Alors Strowman va encore taper un peu sur Reigns avec les brancards, hein, les espèces de trucs orange là qu'on place sous les brancards, des grands coups dans le dos. Mais voilà, Reigns il est quand même costaud. Il a le punch de Superman pour se défendre. Et il va finir par tenter l'impossible, se jeter sur Strowman pour un spear juste devant les portes ouvertes de l'ambulance. Et Strowman est très malin, il esquive. Reigns rentre direct tout seul dans l'ambulance. Strowman ferme les portes.
Ouais.
Et c'est la victoire. La victoire de Strowman, le monstre. Et là, tu vas me dire la suite.
Ah, d'accord. Bon, bah.
Alors, Strowman.
Donc, tu veux raconter la suite? Oui, alors, donc du coup.
Vas-y.
Roman Reigns, si je me gourre pas, hein, dis-moi, mais donc, à ce moment-là, donc du coup, Strowman, voilà, il est tout content, Braun! Et donc, c'est à ce moment-là qu'en fait, Roman Reigns ressort de l'ambulance.
Ouais, oui.
Il se rend compte qu'il a eu le moment sûrement le plus ridicule de ces dernières années.
C'est ça.
Il a véritablement sauté comme une merde dans l'ambulance. Et donc du coup, il se venge, hein, il en fout plein la gueule à Strowman. Ensuite, est-ce que t'es sûr que je sais plus s'il l'a fait passer à travers les diodes. Est-ce que c'était à ce moment-là ou c'était avant? Enfin bref, il me semble que c'était à ce moment-là justement. Enfin bref, parce que il devait le ramener, mais bref. Au final, il arrive quand même à mettre Strowman dans l'ambulance. Et là, pour s'assurer que Strowman reste bien dans l'ambulance et pour qu'il l'emmène vraiment en enfer, hein, comme il l'avait annoncé, Il dégage le conducteur de l'ambulance, hein. Il le sort comme une merde, hein. Il le balance par terre et il commence à conduire l'ambulance. Et c'est pas fini, puisque la caméra continue à suivre l'ambulance qui fonce. Mais il conduit très bien, hein, Roman Reigns. C'est incroyable.
Ce que je me disais, effectivement, il conduit très bien les ambulances.
Il conduit comme un ouf. Il part comme ça à bien 20-30 km heure dans les coulisses et il se retrouve dans le parking souterrain et là en fait il se place devant des camions de la WWE et puis il s'arrête, il regarde son rétro, il fait chauffer le moteur,
il est face à lui-même à ce moment-là,
voilà. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va partir en trombe, etc.? Et là, il fait marche arrière à pleine bourre vers, du coup, un des camions de la WWE et il encastre l'ambulance sur le camion, réduisant au moins la taille de l'ambulance d'un tiers, avec Strowman derrière. Pas de bullshit, il est pas passé en dessous ou quoi que ce soit, il est dans l'ambulance. Voilà, après il sort complètement sonné, hein, Roman Reigns, après sa tentative de meurtre, et donc du coup il s'en va, et puis voilà, il est tout sonné, il titube un peu, et puis il s'en va. À ce moment-là, on croise Kurt Angle, qui est genre... Alors, magnifique, magnifique Kurt Angle, qui est comme ça.
Voilà.
Alors, désolé pour les gens qui n'ont pas la vidéo, mais bouche bée. Il comprend pas. Et là, il y a... merde, comment il s'appelle les deux...
TNG Security, Jamie Noble.
Jamie Noble, voilà.
Avec un pied de biche. Et voilà. Il ne sait pas se servir d'un pied de biche, Jamie Noble, c'est dommage. Donc, il n'arrivera pas à ouvrir la porte de l'ambulance.
Ils sont en mode urgence, hein. Tout le monde est en train de crier à qui peut aider, etc. Donc Jamie Noble essaie d'ouvrir l'ambulance avec un pied de biche, il n'y arrive pas, etc. Les pompiers doivent arriver, on les voit arriver de loin. Là, je vous le raconte. T'allais dire ?
J'ai dit, pendant ce temps, le show continue. Donc,
il y a un match.
Il y a un match en parallèle.
Il y a un match en parallèle, oui.
Complètement super réaliste.
C'est donc, du coup, Heath Slater contre Kurt Hawkins. Donc, du
à
coup.
À l'arrache, ils débarquent, ils sont pas habillés. Ils sont en train de finir de se nouer les trucs.
Le main event de la soirée, finalement, qu'on nous passe en même
c'est
temps.
C'est ça.
Et donc, du coup, on a un split screen, on a deux écrans, d'un côté le match et d'un côté cette situation perturbante. Au bout de peut-être 1 minute 30, 2 minutes, il y a les pompiers qui arrivent. Et puis ils utilisent, alors je sais plus comment s'appelle cet appareil, mais en fait c'est un truc qui utilise la pression de l'eau en fait pour ouvrir des portes. En fait c'est des instruments utilisés par les pompiers, quoi, et ils mettent bien 1 minute 2 minutes pour ouvrir pour ouvrir la porte sur à 3 endroits différents et finalement réussir à sortir Strowman, à ouvrir et à voir Strowman, donc Strowman qu'on essaie de mettre sur le brancard. Et au bout de 30 secondes de Strowman qui fait non m'aidez pas et machin etc, il arrive à repousser tout le monde et il sort de l'ambulance titubant, tombant environ tous les 2 mètres, Kurt Angle complètement halluciné, Strowman qui s'écroule à un moment, qui se tient sur un bus de la WWE et qui fait des traces de sang sur 2 mètres en se tenant dessus, et puis finalement qui s'en va un peu plus loin dans le parking, on sait pas où il va. Kurt Angle
se retourne quand même brièvement sur la caméra pour montrer son visage tuméfié là,
voilà. Il y a un moment où il s'arrête et il se retourne pour regarder l'ambulance et là on voit on le voit plein de traces de sang et comme une espèce de bête blessée, il s'en va en grognant et voilà, il veut pas, il les a repoussés, il dit ah, me faites pas chier, etc. Et voilà, c'est la dernière image. On va pouvoir parler de tout ça, donc. Vas-y, Ring. Qu'est-ce que t'as pensé?
Alors donc, info importante, hein, Heath Slater gagne contre
Heath Slater, oui, Heath Slater gagne contre Kurt Hawkins.
On ne voit pas l'image. Hein.
Oui, on entend, oui, on entend juste l'annonceuse Jojo, je crois.
Le résultat. Ouais, ouais, bah, match énorme, hein, encore une fois, entre les deux Golgoth. Ça fonctionne toujours aussi bien, hein, que ce soit Roman Reigns d'un côté, qui scelle comme un porc, Braun Strowman qui est toujours monstre de puissance. Il faut le voir, hein, choper Roman Reigns et le balancer d'un côté comme de l'autre, là, sur le... que ce soit sous le Titantron ou le faire valdinguer sur l'ambulance.
Et on n'a pas parlé du nocelle de la chaise aussi.
Oui, bah oui, bon, ça. Ça malheureusement, c'est encore génial. Un rookie, hein, Strowman, mais invincible, les coups de chaise, ça lui fait rien, c'est un monstre. C'est un monstre. Oh, bah, c'était grand spectacle WWE, puis ce finish de l'ambulance. Donc là, on est dans le bigger man life, hein, c'est sûrement too much, mais quand on regarde un pay-per-view de la WWE, c'est aussi des trucs qu'on veut voir de temps en temps, hein, ces espèces de séquences complètement hallucinantes. Qui met le violence, vengeance, et peut-être est-ce qu'on n'est pas sur un heel turn de Roman Reigns, le heel turn tant attendu, double turn.
Il y en a qui parlent de ça sur le Twitter.
C'est quand même un assassin qui fait un délit de suite, hein, Roman Reigns. Ça va être difficile d'en faire le héros des enfants.
Après, le truc, c'est qu'on a eu aussi Randy Orton qui a brûlé une maison. Hein.
C'est pas faux. Il a éclairé des cadavres.
Le meurtre n'est pas si important.
Était morte déjà dans la maison, mais tentative de meurtre et délit de fuite, c'est quand même grave, Roman Reigns. Bah en tout cas, on en a eu plein les yeux là, hein. Franchement.
Ouais.
C'est ce qu'on veut voir parfois, hein, la WWE. Et puis franchement, le match, il était, c'était encore une fois spectaculaire. Hein. Ça fonctionne très bien entre les deux. Et puis pour ceux qui essayent encore de rabaisser Roman Reigns, il y a quand même un ceiling de fou, hein, donc que ce soit au niveau de ses enchaînements ou de la manière dont il vend les coups, maintenant il est passé quand même à un niveau supérieur. Là, c'est du grand spectacle, Roman Reigns. Il y a pas à chier. Hein.
Qu'est-ce que je peux rajouter? Moi, le truc du nocelle, justement, j'ai trouvé ça très bien. Très bien joué parce que
ouais, ça m'a pas choqué non plus, hein.
C'était après une plutôt rude bataille dans le ring où quand même Reigns s'est fait quand même assez maîtrisé, et surtout cette rapidité incroyable de Strowman, hein, dans le ring, c'est je pense que c'est vraiment sa particularité. C'est je me souviens pas de géant de cette taille, de cette musculature, aller aussi vite dans tout ce qu'il fait. C'est incroyable comme il est malin, vraiment excellent sur tous les points, quoi. C'est incroyable. Toute cette séquence à côté de l'ambulance, génial. Pourtant, on en a vu un peu, on en avait déjà vu ces dernières semaines, mais là, on a eu un nouveau spot de Roman Reigns qui se fait balancer sur l'ambulance. Qu'est-ce qu'il prend? C'est incroyable.
C'est ça, hein, il donne de sa personne. Hein.
Ce finish qui est improbable, personne n'avait imaginé ça, quoi. Et c'est la rivalité de l'année pour l'instant. Je vois pas. Pourtant, j'aime beaucoup Lesnar Joe. On va en parler juste après, qui est une super rivalité, etc. Mais là, on est tellement. En plus, il y a de l'historique derrière, etc. Et on est. Et c'est. Ils y mettent tellement les moyens et tellement l'écriture, et c'est vraiment une. Quand l'ambition est au même niveau que la qualité, c'est assez incroyable ce qu'ils peuvent faire la WWE. Moi, je dis vraiment bravo parce que ça restera un des grands moments de cette année. Magnifique.
Côté hollywoodien de la WWE, voilà, qui ressort, c'est voilà, grand spectacle. Moi, je suis client.
Et on reste toujours à la fin. circonspect et en même temps se demandant qu'est-ce que ça veut dire pour la suite, qui est le gentil, qui est le méchant, comment ça peut se résoudre finalement cette histoire, parce que ça devient vraiment infernal cette rivalité, ça devient vraiment là pour une fois,
c'est dangereux,
le nombre
pour
de
le
fois
décor, ça coûte du pognon.
Le nombre de fois où la WWE nous vend des héros qui disent je vais t'emmener en enfer, je vais attention, je vais finir ta carrière, etc., et que finalement on arrive juste à un match, un pur match où on arrive juste à une rivalité de base, et là on a un truc qui est juste flippant.
Ouais. Tout le reste n'est que détail hein, côté de ça au final. Bon. On voit, c'est les main eventers, ils sont là.
Bravo.
Voilà, un grand moment. Donc on en parlera sûrement au cours de l'année hein, encore de cette rivalité entre Roman Reigns et Braun Strowman. Allez, on va attaquer ce qu'il y a. C'est quand même un main event derrière. Hein,
ouais.
Mine de rien. Match tant attendu entre le champion de l'univers Brock Lesnar qui affronte Samoa Joe. Donc c'est Samoa Joe qui arrive en ring en premier. Lesnar arrive ensuite. Il y a une petite présentation. Là, Paul Heyman se lance, qui accompagne Brock Lesnar, se lance dans une présentation du champion. Mais là, il se fait couper. Hein, direct, Samoa Joe débarque. On se prend à rêver. Hein, parce qu'il démolit Lesnar.
Au moment où il lève la ceinture. C'est ça qui est magnifique. Au moment où Lesnar lève la ceinture et que Lesnar a dit oh, you're reigning, defending, boum.
Boum. Voilà. Parce que avant que le match commence, une fois que le Reigns et contre Strowman s'était terminé, si on regardait l'heure, ben on voyait qu'il restait plus grand yak, hein, un petit 20 minutes. Donc on était quasiment certain qu'on partait sur un squash de Samoa Joe. Et le match ne démarre pas puisque Samoa Joe attaque tout de suite. Il va prendre Lesnar, l'emmener dehors, l'exploser sur la table. Et là, on se dit, ça va peut-être plutôt être un squash de Lesnar, en fait. Peut-être Lesnar qui va se faire squasher. Joe attend que Lesnar arrive à remonter dans le ring hein, parce que le match n'a pas démarré. Hein, donc Lesnar, il est déjà complètement sonné. Il a explosé une table de commentateurs. Brock réussit quand même à monter dans le ring. Le match démarre. Joe fonce tout de suite sur Brock, hein, il l'écrase dans le coin du ring, il lui fait son pelé kick retourner directement dans la tête. Et puis après, c'est parti pour le coquina clutch, hein, il va cibler le coquina clutch. Samoa Joe, le grappin des grappins des îles, hein, comme on appelle ça. Mais Brock Lesnar, quand même, il est costaud, il arrive à se dégager. Il va emmener Samoa Joe à Suplex City. On place un German Suplex sur Samoa Joe qui va de plus en plus s'affaiblir. Ça transpire à grosses gouttes hein, de part et d'autre. Mais Joe, quand même, il est là, il est présent, il réussit à rentrer dans la partie. Et encore à plusieurs reprises, il va tenter le coquina clutch. Il va avoir bien du mal à s'en sortir. Lesnar, il est à deux doigts de s'évanouir, mais il finit par soulever Joe sur ses épaules dans un ultime effort et il lui place le F5. Samoa Joe ne se relèvera pas. Tombé de 3, victoire de Lesnar après une bataille courte mais acharnée. Deux monstres hein, qui s'affrontaient là. Joe n'a pas démérité en quelque sorte. On aurait aimé un peu plus de technique, un peu plus de prise hein, en soi, un peu différente que des German Suplex et des Coquina Clutch. Mais bon, ça se résume à ça. Joe se relèvera assez rapidement. Hein, il jettera un regard d'assassin sur Lesnar qui quitte le ring, Lesnar au bout du rouleau. Avec un Paul Heyman visiblement pas très satisfait de la performance de son champion. Ce main event, âpre, qu'est-ce que tu en as pensé, Hank?
Ça va dépendre de ce qui va se passer.
Mais c'est ça. Enfin, on aurait aimé voir la victoire de Joe. Hein.
Ouais, j'avoue que j'y ai presque cru. J'y ai presque cru, mais... la domination, peut-être à un bout d'un moment, j'ai trouvé la domination était trop franche pour qu'il gagne, parce qu'il a, il lui a, il l'a vraiment écrasé. Hein. Les trois quarts du match, c'est Samoa Joe qui en fout plein la gueule à Lesnar. J'ai beaucoup aimé un passage qui m'a fait penser à la MMA enfin l'UFC, ils étaient en ce qu'ils appellent le clutch dans la MMA, c'est-à-dire en fait ils se prennent par le torse et en fait ils poussent pour faire un takedown en fait comme comme à l'UFC et il y avait un passage comme ça où je suis merde ils essaient de
shoot,
oui voilà ils essaient de faire du un peu du shoot wrestling. Je pense qu'il y avait un peu de shoot là dedans j'ai entendu que Lesnar était très content du match et se disant l'endurance de Joe comme quoi il a dû lui mettre quelques petits trucs peut-être en vengeance de justement la séquence où ils ont été séparés par le roster là il y a quelques semaines où il lui a mis un vrai coup Joe il a mis un vrai coup dans la gueule donc du coup voilà le match était vraiment très très bon hein. Mais après je pense qu'il faut s'attendre à ça je me demande si c'est Lesnar qui demande ça à chaque fois. Mais tous les matchs de Lesnar sont des matchs à 100 à l'heure et qui peuvent pas durer plus de, je sais pas, 6 minutes, 8 minutes, parce que ça va à 200 à l'heure. Soit c'est lui qui enchaîne les souplesses. J'ai bien aimé le fait que au bout d'un, les séquences de souplesse ont toujours été contrées par Joe au bout d'un moment. À chaque fois il s'en prenait deux ou trois et après il arrivait à contrer, donc il est pas aussi malléable qu'un Roman Reigns ou que d'autres qui sont tombés dans le piège. Donc ça installe encore une rivalité. Est-ce qu'ils vont laisser sa chance à Joe de continuer ça? Ou est-ce que ils vont se dire non, il faut passer à leur programme contre Reigns ou contre enfin Reigns, c'est pas, ça va pas être possible tout de suite non plus parce qu'il est encore recherché par la police donc je sais pas comment ils vont faire ça. Je suis quasiment persuadé à 99%, de toute façon si vous avez vu Monday Night Raw vous savez, persuadé à 99% qu'il y aura une revanche, mais est-ce que c'est juste une revanche pour faire bien et puis voilà, ou est-ce que ils vont vraiment mettre la ceinture sur Joe là après ce match là? C'est quand même Joe mérite la ceinture quoi. Ça, quand on voit ce match on peut pas dire Samoa Joe a fait du bon boulot, tu vois. Non, Samoa Joe est un main eventer. Samoa Joe a fait un des meilleurs matchs contre Lesnar qu'on a vu ces deux dernières années au moins.
Samoa Joe aurait dû arriver à la WWE il y a 10 ans à peu près. Ouais. T'as vu la pop qu'il avait en arrivant quand même. Les gens étaient chauds parce que d'habitude c'est tout pour les stars.
Ouais, d'ailleurs, il se retenait. J'ai vu quand il arrivait dans le ring, il a regardé le public et j'ai l'impression qu'il se retenait vachement de sourire parce que il était. Je pense qu'il était un peu impressionné quand même.
Ouais, bah oui. Hein.
Donc ouais. Mais bravo aux deux et donc on continue quand même avec cette histoire. Même il y a des gens qui vont interpréter ça genre ouais non mais Joe il a été enterré ou je sais pas quoi, mais pas du tout quoi. Ce match c'est loin, c'est tout le contraire d'ailleurs. C'est Lesnar, il a gagné sur le fil avec un moment, avec 5 secondes d'inattention de Joe, mais voilà.
Donc Joe il a eu le même traitement que Goldberg quasiment. Il n'a pas eu le droit de gagner la ceinture de suite, mais c'était à peu près le même style de match qu'ils ont fait à WrestleMania, un truc aussi serré où effectivement, et il y a quelques petites ouvertures à Lesnar qui lui permettent de revenir dans la partie et de gagner le match, mais il est obligé de tout donner et Joe avait l'air beaucoup plus frais à la fin du match que Lesnar et le fait qu'il se relève comme ça et qu'il envoie le regard, il y avait une réalisation qui était aux petits oignons hein, sur ce match-là, beaucoup plus que sur les autres matchs. Il y avait vraiment des plans qui voulaient dire ce qu'ils voulaient dire, c'était très travaillé au niveau de la résiliation et la réalisation. D'habitude c'est le genre de réalisation qui sort quand il y a Triple H dans l'histoire hein, quand il faut mettre en valeur le fils du patron, mais là traitement assez grandiose sur Joe. Après Le catch, c'est un peu aussi un facteur magique hein, quand l'alchimie commence à marcher. Joe, c'était pas garanti non plus que ça devienne un main eventer, même si on savait qu'il avait toutes les qualités, ça peut toujours se casser la gueule. Mm-hmm. Par contre, on voit là que ça a connecté avec cette rivalité contre Lesnar. Et effectivement, c'est peut-être le moment de lui filer la ceinture. C'était peut-être effectivement le temps de faire le passage de relais. Mais en même temps, est-ce qu'on enlève la ceinture à Lesnar maintenant? Parce que Lesnar, c'est la seule vraie super star du roster avec Cena. Est-ce que Joe est mûr pour ça, ou est-ce qu'il faut encore attendre un peu? Mais il y a de la frustration qui va se créer, c'est toujours bon, et tout ça, je pense que c'est très très bon pour Joe hein.
Le on en revient au problème des face, enfin du fait que les heels sont les plus convaincants, et que du coup tu me dis, la seule superstar, enfin c'est John Cena et qui d'autre tu disais? Styles peut-être.
Non Cena et Lesnar.
Cena et Lesnar.
Dans le sens des gens qui ramènent du pognon hein, ouais. qui vont ramener des gens qui vont remplir les stars, il y a plus que les deux là. On peut le tourner dans tous les sens, les autres on n'est pas à ce niveau. Hein.
Ouais. Va falloir attendre encore quelques années avant que Strowman soit au même niveau.
C'est ça.
Bref, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire.
Strowman, il faudra qu'il aille affronter Lesnar à un moment donné. Il y a un mec qui va devoir faire tomber Lesnar et ce sera lui le nouveau champion. Ça va le jouer entre Reigns, entre Strowman, peut-être Finn Bálor.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui fantasment sur Strowman Lesnar. Moi, j'ai du mal à imaginer ça parce que je vois pas. C'est impossible de voir Lesnar comme un face. Et il y a ce côté où avec Samoa Joe ça fonctionne parce que Samoa Joe est un heel envieux et très pas sentimental mais qui a beaucoup quand même qui montre quand même beaucoup ses émotions. Alors que Strowman est il est trop similaire presque à Lesnar, dans le sens où c'est juste une grosse brutasse qui veut du challenge. Et du coup, j'ai du mal à imaginer pas forcément le match peut être bon, mais une rivalité entre les deux qui est vraiment intéressante. J'attends de voir, mais donc voilà. Et puis bon, c'est bien les main eventers grosses brutasses, mais au bout d'un moment, il va falloir transitionner, les gars. Parce qu'il y a des grosses brutasses, vous en avez 4, quoi. Donc bon.
Oui. Mais le main event, c'est pour quelques catcheurs. Hein. Pas pour tout le roster. Hein. Le reste, c'est de la mid-card. C'est là qu'on voit que Dean Ambrose, ça va être chaud pour lui de revenir dans le main event avec son gabarit de tablette. Ouais. Là, on est. Maintenant, on veut des. C'est des gros Golgoth qui s'affrontent et puis on a encore eu voilà un main event qui est réussi parce qu'on a envie de voir la suite. Voilà, alors peut-être qu'on aurait pu espérer un peu plus de Samoa Joe, un peu plus de variété dans les prises, mais voilà, Lesnar il fait du shoot wrestling. Donc
on a trouvé quoi donner à Big Cass. C'est Big Cass qui va devenir champion.
C'est ça.
Contre Lesnar à SummerSlam. Non mais voilà, mais hâte de voir justement le Monday Night Raw qu'on n'a pas encore vu, mais
le prochain Hulk Hogan, le prochain Grand Star, le prochain Cena, c'est Mojo Rawley. Ouais. Mojo Rawley les stars WrestleMania 2020, vous verrez. aïe voilà ce qu'il en était. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce main event?
Non, bah,
Star Power.
On peut passer. C'était juste un très 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 bon main event et à voir ce qu'ils vont faire avec cette rivalité. Mais en tout cas, le match était prometteur et le match a été au niveau de ce que j'attendais. Donc c'était
c'est ça.
Très bien.
Pas de déception. Allez, c'est l'heure du mot de la fin. Il va falloir qu'on donne une note, il va falloir qu'on donne un top, un flop, dans l'ordre que tu veux. C'est parti.
Alors, le flop, ce Iron Man match, le rythme de l'Iron Man match. C'était pas un flop total ce match, mais c'était le seul moment qui m'a paru longué en fait de la soirée. C'est le seul moment qui m'a paru un peu longué Voilà. Le top. C'était. Ouais, non, mais c'était Stroman qui sort de l'ambulance ensanglanté. je suis désolé, en fait, les gens ils vont avoir l'impression à chaque fois, dès qu'il y a Stroman quelque part, en fait, je le mets en top dans les émissions et tout ça, mais bon. Et ma note sur ce pay-per-view, un 4. Je vais mettre un 4. Par rapport à la qualité générale des matchs qui était vraiment haute, hein, qui était, je veux dire, à part, donc du coup, je chipote un peu sur ce match tag team. Sinon, le reste, le match féminin était excellent. Si j'aurais pu, j'aurais pu mettre le Miz Ambrose en flop, mais bon, je m'y attendais, c'est ça le truc. Donc du coup,
c'était pas catastrophique non plus.
Ouais, voilà.
C'était sans intérêt, mais c'était pas honteux.
Le match féminin, donc du coup, très 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 bon. Le match Reigns-Strowman dont on se souviendra dans longtemps. Et Lesnar-Joe qui a tenu toutes ses promesses et avec un début de match phénoménal. Franchement, le début de match, j'étais... Ouh
ouais.
J'ai fait, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il rentre dans la barrière, oh, il se prend la table, oh là là, il ne s'est même pas commencé. Et Lesnar, il est en train déjà de ramper, ça fait 20 secondes, Lesnar est par terre. Donc excitant, très excitant. La dernière heure de ce pay-per-view était incroyable. Donc voilà, un 4,
un bon 4. Bah écoute, t'as fait un peu le tour, mais je vais quand même réussir à placer mon flop sur Big Cass, que j'ai trouvé peu convaincant. Je donne pas au Cruiser parce que c'est dans le kick-off, hein, on va pas mettre les flops au kick-off. Voilà, pas très convaincant, je le trouve pas très en forme. Je trouve qu'au niveau qu'il est bedonnant, comme je disais, il est pas, voilà, il me fait pas rêver, Big Cass. Le top, t'as fait un peu le tour, alors je vais donner aux commentateurs canadiens qui m'ont rappelé ma jeunesse. J'étais très heureux de les retrouver, même si j'aime beaucoup Ajus et Chéreau aussi, hein, ça c'est
mais quand même un top beaucoup. Mais quand même un top du pay-per-view,
un top du catch. Tu veux un top du catch? Ouais. Je vais le mettre à Sasha Banks alors, parce que voilà, elle a fait le job, m'a fait rêver. Sinon bah non, parce que sinon le meilleur moment c'est quand Joe a explosé Lesnar dans la table en début de match, hein. C'est le truc qui m'a fait le plus marqué. Voilà, et puis je vais me ranger à ton avis, je vais mettre un bon 4, hein. ça vaut cette note là il y avait du gros spectacle, il y avait du lourd, il y avait des choses qui étaient un petit peu on va dire sans intérêt, mais rien de dégueulasse. Je vais mettre quand même le petit carton rouge au cruiser du kick-off, parce que c'est plus possible, les cruisers,
va falloir
faire quelque chose.
Prennent les cruisers avec toi.
Oui. Mais bon, c'est plus possible de booker des choses comme ça. Tozawa, c'est censé aller à 200 à l'heure, surtout contre Neville. Les mecs, ils auraient dû faire un spot fest de taré pour mettre le feu à la foule, et ils ont fait un match tout mou, tout pourri, c'est nullissime. Voilà, si on regarde un peu la concurrence, ce qui peut se faire à la Ring of Honor, ou si on va à la New Japan, ou des choses comme ça, même si on va à la Progress, c'est des trucs beaucoup plus spectaculaires sur les poids légers comme ça, c'est plus possible de continuer là-dedans. 205 live, ça fait dormir tout le monde, personne ne regarde.
Live.
Voilà. Mais voilà, il faut se reprendre sur les cruisers, c'est pas possible. C'est du gaspillage de talent complet. Mais bon, on va pas partir sur cette note défaitiste. Un gros, gros, gros pay-per-view, des grosses séquences choc, du grand spectacle. C'était ça, Great Balls of Fire. Des grosses boules de feu.
Grosses boules de feu. Je suis en train de montrer le logo, en fait. Ouais, voilà. Non, mais des grosses boules de feu comme ça, on en veut toutes les semaines. donc voilà, malgré
la Punjabi prison match,
ah oui, oh là là, ça va être bien ça. C'est pas nous qui nous en occupons, hein.
Non, ça on va laisser à la concurrence.
On va le laisser à Giscal et IRM. N'oubliez pas, hein, Giscal et IRM qui présentent le supplément SmackDown chaque semaine. Nous, cette semaine, on aura aussi donc du coup le podcast Catch Up Raw. Donc avec la suite de ce qu'on est en train de vous raconter. Et le retour tant attendu, mais pas tellement, du Talking Catch. Si attendu par Camille Bourg. Dédicace à Camille Bourg, hein, supporter forever.
Just for you.
Donc voilà, un Talking Catch où on va parler un petit peu du Mae Young Classic, entre autres, et du départ d'Austin Harris. Donc si vous voulez regarder ça, c'est dans les prochaines vidéos.
Si vous êtes abonné, vous serez informé.
Voilà, abonnez-vous. Envoyez des sioux
à l'arc. Alors, bah, on va finir l'auto-promo. Hein. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur YouTube, donc la chaîne des Cahiers du Catch. Hein, donc abonnez-vous, hein, comme on vous a dit. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Catch-up CDC, Twitter, Catch-up CDC. On est sur PodCloud, on est sur iTunes. Voilà, pensez à mettre des commentaires. Venez sur les Cahiers du Catch, venez discuter avec nous, mettez des pouces. Donnez-nous notre avis, insultez-nous, ce que vous voulez. Hank, je te remercie beaucoup d'être venu.
Merci
pour tes interventions.
Oui, je sais, je suis très bavard dès que j'aime quelque chose. Donc du coup, j'espère ne pas avoir trop empiété. Mais
bah, c'est pour ça qu'on te fait venir. Hein.
Ah oui, on...
Et dis-nous tout.
Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc juste pour rappeler une dernière fois sur le Talking Catch, maintenant, donc du coup, ça sera mensuel. Donc vous inquiétez pas, on va pouvoir les faire puisque ça sera mensuel. Au début, on a essayé de le faire hebdomadaire, mais bon, on est so busy. Donc voilà.
C'est ça. Pas tout le temps du monde. Voilà, bah du coup, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que vous avez apprécié l'émission. Et puis du coup, bah vous nous retrouverez très bientôt sur les ondes. Voilà, je vous remercie encore. Et puis
Une dernière fois. Et on remercie aussi les gens parce qu'on en est à 200 abonnés. Donc merci beaucoup.
Merci à vous. Merci les
amis.
On
n'est pas à la barre. Comme chez Zaro.
Comme chez Zaro, on n'est pas à la barre, on passe la barre. Allez, à bientôt les amis, si Dieu le veut. Ciao, ciao.
Salut.